ce soir, la crème de la crème des prédicateurs réformés baptistes. Celui qui est l'instrument dont Dieu s'est servi pour amener cette église à l'existence, ainsi que notre association, le poste de radio, le CERB, peut-être l'ABC, on verra. Et je pense que c'est un grand privilège de l'avoir avec nous ce soir. Donc, je vous invite, sans plus tarder, pasteur Perron. Je ne veux pas en ajouter plus qu'il en faut. Je pense qu'on vous connaît déjà assez bien. Le Seigneur vous bénisse abondamment.
Si vous saviez à quel point je me sens petit, hein? Elle a été. Écoutez, nous en sommes à notre dernière heure, en fait, de cette Assemblée générale de l'ARBQ de l'année 2017. C'était une rencontre, nul n'en disconvient, très bénissante tout du long, ce qui n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'on se sent tous un peu fatigués en son terme. Et, n'est-ce pas, on a pu s'empêcher aussi d'admettre que la Rosie Lasagna, malgré toute la saveur qu'elle dégageait, a contribué un peu aussi à nous alourdir. Le dessert nous a fait faire un pas de plus vers l'écrasement et le vin de Denis a fait un job. Alors, puisse le Seigneur nous soutenir, n'est-ce pas, au cours de la prochaine heure, alors que nous plongeons nos regards dans sa glorieuse parole. Comme vous le savez déjà, le thème de notre assemblée annuelle de cette année, c'est le ministère pastoral. Notre assemblée générale de cette année se voulait en quelque sorte un rafraîchissement pour nos ouvriers, pour nos pasteurs d'abord, principalement qui œuvrent et qui ont besoin constamment d'être encouragés. Je vais donc me permettre ce soir de m'adresser plus directement, plus particulièrement à mes co-ouvriers pasteurs, à mes collègues pasteurs. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée dans la première épître, je dis bien chapitre 3, que celui qui aspire à devenir évêque désire une tâche excellente. Pas une bonne tâche, une tâche excellente. L'appel au ministère, effectivement, c'est une invitation à un privilège inégalé. C'est pratiquement indescriptible, tellement c'est grand. Personne ne disconvient de cela non plus. L'appel au ministère est une invitation, un privilège inégalé. Dans un deuxième temps, l'appel au ministère est aussi une invitation au découragement. J'aurais cru qu'un amen sortirait ça et là. C'est Luther qui disait les chrétiens ne disent pas de mensonges, ils ne font que les chanter. Il n'y a aucun pasteur qui, malgré qu'il réalise l'immensité de la bénédiction qui lui est faite, la bénédiction de son appel. Malgré cela, malgré qu'il est vraiment reconnaissant au Seigneur de l'avoir placé dans une tâche aussi noble, aucun n'expérimente pas des temps de profond découragement, même d'envie de décrocher. Et ça, c'est tout du long, hein? On le voit dans la parole de Dieu, on le voit également dans l'histoire de l'Église. On est familier d'ailleurs avec certains incidents qui nous ont été racontés encore et qui sont pourtant vrais. On n'a qu'à penser à Martin Luther. On va célébrer bientôt les 500 ans là, de la réforme, n'est-ce pas? On se souvient que Martin Luther, ce réformateur, écoutez, ça prend du nerf. De petit moine qu'il était pour faire ce qu'il a fait, pour se présenter, n'est-ce pas, devant les assemblées d'évêques et de tous les nobles de l'époque, et de proclamer que sa conscience est liée par la parole de Dieu, on n'est pas face à une faiblesse humaine, là. On est face à une manifestation de la grâce de Dieu, malgré que ça ne le désincarnait pas. On raconte que la nuit précédant sa comparution, la diète, n'est-ce pas, il a passé la nuit en pleurs, en transpiration, à pleurer devant le Seigneur et à le supplier de lui donner la force de tenir bon au lendemain, ce qu'il fit. C'est ce même Martin Luther qui, dans son bureau, en voyant différents résultats et différents manques de résultats, différentes directions que la réforme prenait, est tombé dans une dépression profonde, tant et tellement qu'il ne sortait plus de son bureau. le visage très long, pas de sourire, pâle, un mort assis. Et son épouse Catherine Van Bora qui décide pour le secouer, n'est-ce pas, de se vêtir tout de noir et qui se pointe à son bureau pour lui dire « Martin, le souper est prêt. » Et Martin le regarde tout de noir vêtu et lui dit « Quelqu'un est mort ?» Elle dit « Oui, à te voir, Dieu est mort. » Et ça l'a secoué, n'est-ce pas. Elle a dit « Non, Dieu n'est pas mort, il s'est relevé et il a redémarré encore, n'est-ce pas, ses pèlerinages et ses envolées. » Le grand Spurgeon, quand on dit le grand Spurgeon, Dieu l'a utilisé grandement, n'est-ce pas, quel prédicateur, a connu des moments de dépression, de découragement ultra profond. Lisez n'importe quelle biographie des hommes de Dieu du passé, et s'ils sont minimalement honnêtes, ils vont vous raconter leur nuit sombre de l'âme. On en passe tous. Et les pasteurs, même ordonnés, n'est-ce pas, ne sont pas vaccinés contre cela. Ça vaut pour les pasteurs, ça vaut aussi pour chaque chrétien, puisque chaque croyant est au service de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Parmi les chrétiens d'Amérique du Nord, principalement chez nos voisins américains, pour illustrer les dommages qui peuvent être conséquents de ces périodes de découragement-là. En moyenne, chaque année, aux États-Unis, 4000 églises voient le jour. Alléluia! Amen! Chaque année, aux États-Unis, 4000 églises viennent à existence, mais 7000 ferment leurs portes. Alors, au niveau numérique, on perd du terrain. En 2016, à chaque mois, pas chaque année, à chaque mois, une moyenne de 1700 pasteurs ont démissionné aux États-Unis. Chaque mois, 1700 pasteurs ont démissionné. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont démissionné? Parce qu'ils étaient heureux, contents, enthousiastes dans leur ministère? Parce qu'ils étaient découragés. Parce qu'ils étaient sans force. Parce qu'ils sentaient le poids de leur insuffisance. Ajoutez à cela maintenant, toujours dans le même mois, à chaque mois, 1300 autres sont remerciés de leur service. Ça fait 3000 pasteurs par mois qui décrochent aux États-Unis. En 2016, 36 000 durant l'année. Toujours pour 2016, 3500 personnes par jour quittent l'Église. Multipliez ça par 365. Hein? Si on s'arrête aux chiffres, si on s'arrête à ce qu'on voit, à ce qu'on analyse, on ferme boutique. On va vendre des ballons dans le parc ou des fleurs. Mais nous avons cette promesse que Dieu bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un évangéliste du nom de Alan Redpath a écrit ce qui suit. « Si vous êtes un pasteur chrétien, vous êtes toujours en crise. » Il est encourageant, le frère. « Soit au milieu d'une crise, soit à la fin d'une crise, ou soit au début d'une autre crise. » OK, les gars? Alléluia! Vous savez, un pasteur, pour être minimalement digne de ce nom, est porteur de fardeau. Sinon, il n'est pas pasteur. Il est mercenaire. Le mercenaire n'a aucun souci pour les brebis. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit venir le loup? Il s'enfuit. Et il laisse les brebis à leur vulnérabilité. Un berger, non, va donner sa vie pour ses brebis. Bon, écoutez, un pasteur qui n'a pas sur son cœur, un fardeau pour ses brebis n'est pas à sa place. Spurgeon écrit, « Un prédicateur qui n'a pas de croix à porter, un prophète du Seigneur sans fardeau, est un serviteur sans aucun profit et il est lui-même un fardeau pour l'Église. » Donc, le découragement occasionnel dans le service est une réalité indéniable. Alors, chers collègues pasteurs, si vous passez par ces périodes-là, pensez pas que vous êtes tout seul. Ça a été vécu bien avant nous. On le voit dans la Bible, donc on le voit tout au long de l'histoire. Le découragement, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6, vient principalement de trois sources. Premièrement, les pressions personnelles. Parce qu'un pasteur, d'abord, est un être humain, un humanoïde, voyez-vous, qui n'a pas encore atteint la glorification. Et comme disait notre ex-professeur de théologie fondamentale, au docteur Pinard et à moi-même, dans chaque homme, il y a un passé qui invite, il y a un passé qui habite, il y a un futur qui limite, il y a un, je recommence à zéro, dans chaque homme, il y a un passé qui habite, il y a un présent qui limite, puis il y a un futur qui invite. Les pasteurs, comme tous les autres êtres humains, sont des gens à devenir. Ils sont des gens en combat avec leurs propres péchés, avec leurs propres misères. Si chaque croyant fait face à sa misère à l'occasion et est découragé lui-même à raison de son péché, les pasteurs n'échappent pas à ça non plus. Les pressions personnelles, les pressions dans leur mariage, les pressions avec leurs enfants, les pressions à titre de citoyen, les factures, parce qu'on a des factures de tout le monde, hein? Tout ce qui fait les pressions du quotidien, le pasteur les a en plus. Des pressions du troupeau que le Seigneur lui a confié, a mis sous sa responsabilité à sa charge. Et à cet effet, pour employer... Donc, la première source de découragement, sont les pressions personnelles. La deuxième source, ce sont les faux enseignements. Ça a l'air de rien, hein? Mais un pasteur, c'est un apologète. Un apologiste, c'est le mot qui vous plaît. Je me souviens un jour, quand je finissais ma thèse de doctorat, on dit une dissertation en anglais, en français on dit une thèse, hein, de doctorat. J'étais encore là, en Pennsylvanie, je parlais avec le pasteur Walt Chin, qui est prédicateur extraordinaire, qui a fait 39 ans, il a fait un seul ministère pastoral, et c'était là, à Grace Baptist Church, en Pennsylvanie. Et il me disait, « I'm tired, je suis fatigué. On est toujours en lutte. » Les Arméniens d'un bord, les Antinomiens de l'autre côté, de tous côtés on se tourne, on est constamment en train de lutter. Puis en réalité, comme Pascal le faisait ressortir un peu hier, nous sommes un peu les gardiens de l'orthodoxie, les gardiens du temple. Et on entend tous ces faux enseignements qui pullulent tout autour, n'est-ce pas? Et qui ne sont pas sans effet sur les brebis. Surtout avec Internet, n'est-ce pas, où tout le monde s'improvise enseignant. On raconte des idioties, c'est encore un euphémisme là-dessus, mais c'est tellement bien enveloppé que ça a un impact. Et on est en train de corriger ça chez un, corriger ça chez l'autre. Et oups, l'assemblée tend à prendre une certaine direction. Il faut revenir puis lutter encore là-dessus, encore en aider un autre, une autre. Les faux enseignements minent énormément les énergies et prennent énormément de temps dans le ministère pastoral. Et troisièmement, le manque de réponse à l'Évangile. Bon, on sait que Dieu est souverain. On sait que c'est lui qui sauve. Ça ne nous enlève pas le désir de vouloir avoir des conversions, de vouloir avoir surtout de la croissance chez les brebis qui sont placées sous notre garde, notre responsabilité. Et à cet effet-là, sans vouloir camper le rôle de celui qui aime faire pipi sur ses bottines, je dirais que l'Église est plus une source de difficultés que le monde pour le pasteur. Vous travaillez avec des gens pendant des années, vous vous attendez bien sûr à des résultats, tous ceux qui travaillent s'attendent à quelques résultats. Et souvent de fois, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Souvent de fois, on voit l'effet contraire. Et ça draine aussi les énergies, vous voyez. Quelqu'un disait, c'est un peu comme donner du sang plusieurs fois par jour. Ça finit par affaiblir. L'apôtre Paul a vécu cette réalité-là avec l'Église de Corinthe en raison de leur superficialité, leur péché, leur rébellion. C'était là, pauvre Paul, une bien piètre récompense. Un bien triste retour pour l'amour qu'il leur avait manifesté pendant les 20 mois qu'il a passé auprès d'eux, parmi eux. C'était une bien pauvre récompense pour les nombreux sacrifices dont il avait fait montre à leur service. Et après son départ, Un peu de temps après, les choses se sont détériorées. Les choses ont tourné au vinaigre. L'immoralité est devenue rampante. Même un cas d'inceste. La mauvaise utilisation des dons spirituels, les abus, les jalousies, les faux enseignements, les critiques acerbes à l'égard de l'apôtre même qui s'était donné pour eux, elle reste. La situation, vous savez, était telle que même si Paul a grandement insisté, nous dit 1 Corinthiens 16, n'est-ce pas, Apollos a littéralement refusé d'y retourner. Il n'a pas voulu y rester, il n'a pas voulu y retourner. Je vous invite à tourner avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Nous lirons les versets 12 à 17. De Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 17. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Les versets 12-13 nous révèlent l'état d'âme de l'apôtre Paul. Paul était donc à Éphèse, et on sait ce qui s'est produit là. Il y a une émeute qui a éclaté. Pourquoi est-ce qu'une émeute qui a éclaté? Parce que Paul a mis l'économie à terre. On se souvient que l'une des grosses industries à Éphèse était effectivement la fabrication des petites statuettes à l'effigie de Diane, la grande Diane des Éphésiens. Il y avait un temple là qui était là pour elle, et Démétrius, l'orfèvre et son syndicat faisaient beaucoup, 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 beaucoup de sous avec ces petites statuettes-là, et l'apôtre Paul vient prêcher que bon, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Et bien sûr, aujourd'hui, à l'époque comme aujourd'hui, lorsque les gens cessent de consommer, l'économie tombe. Alors, Démétrius n'était pas trop d'accord, on sait ce qui s'est passé, on s'est réunis dans l'amphithéâtre, et là, on voulait passer à tabac tout le monde, et finalement, gloire à Dieu pour les compagnons de Paul qui l'empêchent de se rendre dans l'amphithéâtre, de sorte que ça lui a sauvé la vie, sinon, c'était fini pour l'apôtre, vous voyez. Alors, après avoir vécu cette très, très grande difficulté, cette émeute-là, il décide de quitter pour Troas. Mais, dans son esprit, il y a une inquiétude énorme. Son cœur est sans repos. Il pense aux Corinthiens. Parce qu'il avait déjà envoyé une lettre aux Corinthiens, une lettre qui ne nous est pas parvenue. Mais on sait qu'elle était écrite par celle que nous avons là. Et les nouvelles qu'il avait reçues en retour étaient vraiment, vraiment décourageantes. Alors son âme est sans repos et il décide d'envoyer une autre lettre cette fois-ci. Il envoie Tite à Corinthe, porteur d'une autre missive dans laquelle il répand littéralement son cœur. Son esprit est dans une agitation unique, est dans une très, très grande agitation en raison de son souci, son inquiétude pour ses amis corinthiens, ses frères corinthiens, et surtout, son anxiété. Comment est-ce qu'ils vont recevoir ma lettre? Arrivé à Troas, où Paul avait déjà planifié prêcher la parole, en compagnie de Tite, ben voilà que Tite n'est pas au rendez-vous. Tite n'est pas là. Donc, Paul demeure dans son inquiétude. Il espérait que Tite arrive avec de bonnes nouvelles, mais il n'est pas là, Tite. Et là, Paul s'imagine le pire. Il n'éprouve aucune joie à Troas. Il est complètement absorbé par la situation de Corinthe. Il est même abattu. Parce que là, son imagination fertile, vous savez comment ça se passe quand on est inquiet? On fait les pires scénarios. Là, il est absolument inquiet. Et malgré qu'à Troas, une porte lui soit ouverte, il ne la prend pas. Il n'en profite pas. Il a perdu son zèle pour l'œuvre. On ne parle pas de Démas, qui l'a quitté par amour pour le siècle présent. On parle de l'apôtre Paul, le grand général de l'Évangile, l'apôtre des gentils, le fonceur et le défonceur, l'homme de vision, le gars d'équipe, le leader, celui qui traverse les mers, qui survit au naufrage, qui survit à la flagellation, à la prison. Le cœur vient de prendre congé. Comment est-ce qu'il sait qu'il y a une porte qui lui était ouverte pour l'Évangile à Troas? Parce qu'il a dû arriver, il a dû commencer à prêcher, puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait une réponse, mais le cœur n'y était tellement pas que le texte nous dit, verset 13, il s'est en allé. Il a laissé derrière lui la porte ouverte et il s'est en allé. L'apôtre Paul. C'est un peu iconoclaste, mais c'est bon, hein? Ça nous amène dans la réalité. L'apôtre Paul quitte. Il préfère plutôt aller en Macédoine. Il est tenté par le décrochage. Il imagine toutes sortes d'accusations des Corinthiens contre lui. Il imagine toutes sortes de situations. Oh, un tel a dû chuter, un tel a dû quitter, l'autre doit croire cela. Et là, il ne voit qu'une catastrophe monumentale dans l'église de Corinthe, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, quand on est dans cette espèce de posture-là, les moindres difficultés du quotidien prennent des proportions absolument démesurées. Pour Paul, la question qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est de savoir comment est-ce qu'il va avoir commerce avec cela. Pasteur Paul, un bon pasteur réformé baptiste, comment va-t-il avoir commerce avec son découragement? Où va-t-il trouver le réconfort, la consolation dont il a besoin dans cette circonstance particulière? Et c'est même dans ce que nous allons voir dans les versets 14 à 17. Exceptionnellement, ce soir, j'ai 4 points. Je ne vous garderai pas plus longtemps, ils sont plus courts, mais il y en a 4. D'abord, il y a quelque chose qui se produit entre les versets 13 et 14. Paul sort de sa dépression et il s'exclame « Grâce soit rendue à Dieu ». On n'est plus là, avec le bonhomme à Troas, le nez piqué dans le nombril. On est quelqu'un maintenant qui regarde vers Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. La meilleure façon de composer avec l'anxiété, avec le découragement, c'est de se tourner vers ce pour quoi on peut être reconnaissant. Et nous en avons beaucoup. Et ce faisant, gloire à Dieu pour cet événement-là, parce que ça donne l'occasion à Paul de nous fournir une vision hors pair du ministère pastoral, du ministère chrétien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Littéralement, qui triomphe toujours de nous en Christ, ou encore plus précisément, qui nous conduit toujours au triomphe ou en triomphe. L'image est la suivante, et elle est belle l'image de Paul. Paul se représente un triomphe romain. C'est un terme couramment utilisé là-bas. Lorsqu'un général arrivait d'un combat, d'une bataille, il était vainqueur, n'est-ce pas? Il arrivait avec un long défilé dans les rues grouillantes et effervescentes de Rome, n'est-ce pas? Ils étaient acclamés, il y avait derrière lui son armée vainqueur, et il y avait derrière les vainqueurs les vaincus. Les conquis. Et le butin aussi, dont il s'était emporté, il s'était emparé. Et là, c'était la célébration à qui mieux mieux. Puis de même que la longue procession pitoyable des victimes et du butin révélait l'ampleur de la victoire, de même, Paul considère que ses propres épreuves glorifient Dieu. Il faut apprécier ici le moment de ce changement de posture chez Paul, parce qu'il y a un changement de posture radical. C'est lorsque Paul se détourne ou détourne ses yeux des circonstances pour regarder au Seigneur que la perspective change complètement. Et ce que l'apôtre réalise à nouveau, c'est qu'il fait partie du cortège. Il est dans la parade. Alléluia. Si? Il y a quelques années, on disait avec un peu d'humour, mais il y avait une belle réalité là-dedans, que le monde se divisait en trois groupes. Ceux qui sont dans la parade, ceux qui regardent la parade, puis ceux qui ne savent même pas qu'il y a une parade. Hein? Alors Paul, lui, non seulement savait-il qu'il y avait une parade, mais il était dedans. Alors il réalise effectivement qu'il est avec les vainqueurs. Nous sommes partie prenante de la parole, bien-aimé. Vous voyez, c'est toujours la difficulté des circonstances, hein? Parfois la circonstance est petite, mais quand on a les yeux collés dessus, on perd complètement le contexte autour. On ne voit plus que la petite circonstance. Et à partir du moment où les yeux de Paul se détournent de la petite circonstance ou de la grosse circonstance à vue humaine, il voit la grandeur et la majesté de son Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. La Bible ne nous enseigne jamais, bien-aimés, à puiser notre consolation, à aller fouiller pour chercher des encouragements dans les circonstances fluctuantes, mais plutôt à aller chercher dans le Seigneur qui a magistralement agencé les circonstances à sa gloire. Et il y a une importante leçon pour nous, parce qu'on a tous et toutes cette propension, on dirait que c'est instinctif, hein? On est... C'est quoi? C'est le psaume 119, verset 25, qui dit « Mon âme est attachée à la poussière ». Le psalmiste fait cette confession-là, puis on peut tous dire « Oui, je me l'approprie ». On est tous pognés avec le terrestre. C'est dur, on dirait, de commencer à vivre dans le céleste, avec les perspectives du ciel. On a tous tendance à vouloir, quand quelqu'un est dans les difficultés, à vouloir le consoler en lui faisant miroiter un changement de circonstance. Est-ce que c'est pas comme ça? Quelqu'un perd son emploi, on lui dit niaiseusement, « Ah, oh, écoute, inquiète pas, je suis certain que le Seigneur va t'en donner un bien meilleur. » Est-ce qu'on a écrit les décrets divins pour savoir ça? On ne sait pas. Dieu peut regarder cette personne-là sans emploi pendant un bon moment pour lui enseigner quelque chose. Quelqu'un malade, « Je suis sûr que ça va bien aller. » Ben, c'est sûr, si les chrétiens sont bien allés, parce que même s'ils crèvent, ben, aussi, elle. Mais il veut dire, si on veut lui dire, tu vas guérir, tu vas aller mieux, la douleur va... On n'a pas le droit de donner une consolation, une assurance, un encouragement basé sur les circonstances parce qu'on n'est pas en contrôle des circonstances. On est en régime d'incarnation, puis en régime d'incarnation, les choses vont assez rarement comme on le voudrait. Alors, si on amène les gens à avoir une consolation basée sur des circonstances, c'est une consolation extrêmement éphémère. C'est ce que j'appelle une consolation caffeine-free, sans caféine. La personne peut continuer de dormir, c'est comme dire, « Ah, prends la pluie, bon temps. T'attends que ça passe. » La consolation ne consiste pas dans le changement des circonstances, non plus qu'elle n'enlève la peine des épreuves. C'est plutôt une bonne chose qui prend soin d'une mauvaise situation, nous donnant la force d'endurer le mal. Permettez-moi, j'ai prêché quelques messages en anglais et je suis tombé sur cette citation d'Ursinus, l'un des co-auteurs du catéchisme de Heidelberg, et j'ai trouvé qu'elle est appropriée pour ce soir également. Ursinus écrit dans le catéchisme de Heidelberg, première question, n'est-ce pas, quelle est ton unique consolation dans la vie comme dans la mort? Il écrit, « La consolation, c'est une certaine détermination de l'esprit, par lequel nous postulons un bien en opposition à un certain mal que nous expérimentons, et par la contemplation de ce bien, nous soulageons la peine du mal et la supportons patiemment. Grâce soit rendue à Dieu que je suis dans la parade. » Oui, la circonstance est là, elle est pénible, elle fait mal, mais je suis dans la parade. Et les exemples sont omniprésents dans la Bible. Un exemple, l'Ancien Testament, Ésaïe 40. Vous savez comment commence Ésaïe 40? Consolez, consolez mon peuple. Ah! Consolation dans l'air. Il en avait besoin d'ailleurs, parce que ça fait 39 chapitres qu'ils vont dire que ça va mal aller. Ça fait 39 chapitres que le prophète leur dit, ah! Vous allez être déportés, ça ne sera pas une balade en forêt à Babylone, ça ne sera pas facile, puis ça ne sera pas une fin de semaine. Un siècle et demi, ce que ça va durer. Alors, il essaie pas de dire, « Sois pas loin, les gars, ça va bien se passer, vous allez voir. Ils sont gentils, les Babyloniens, après tout. Persuadés que vous allez prospérer, vous allez vous acheter des belles maisons, des petits jardins. Non, ça va être extrêmement ardu. Ça va être pénible, vous allez y goûter. » Et voilà qu'au chapitre 40, la consolation est dans l'air. « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Et c'est un des plus beaux textes à prêcher, les gars prédicateurs, là, parce qu'on a les trois points. Trois fois le même refrain revient, « Élève ta voix et crie », où il y a une voix qui s'élève et qui crie. Alors, il donne trois discours de consolation. Au verset 3, au verset 6, au verset 9, et c'est la même introduction, « Une voix crie dans le désert ». Quelle est la première voix? Qu'est-ce que crie la première voix? Elle crie quant à la gloire du Seigneur. Le deuxième discours a rapport avec la parole du Seigneur et le troisième discours, au verset 9 et suivant, avec le bras de l'Éternel. Jamais, jamais annonce-t-il un changement de circonstance. Il dirige les yeux des gens vers le Maître des circonstances qui fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui nous dit que les circonstances ne viennent pas de l'enfer quand ça va mal et du ciel quand ça va bien, que toute circonstance puisse sa source en Dieu puisqu'il y a un seul Créateur. Lorsque l'ami de Jésus meurt, Lazare, tout le monde était pleuré, bien sûr. Et Jésus, en plus, décide d'y aller en retard. 4 days late, but... Moment.
Always on time.
Pour ceux qui ça dit quelque chose. Marie se rue. Seigneur, si t'avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si on avait été à la place de Jésus, qu'est-ce qu'on aurait fait? Là, notre petit cœur de poule aurait été sensible, hein? On aurait dit, écoute, parle-en pas aux autres, là. Arrête de pleurer. Je vais le ressusciter. On l'aurait consolé par une circonstance. C'est pas ce que Jésus fait. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si. S'il la console en lui disant, je vais le ressusciter, elle ne sera pas consolée pendant bien, bien longtemps parce qu'il va mourir encore éventuellement. Oui, il dirige sa consolation, son encouragement vers la source ultime de tout cela, vers Dieu lui-même. Jean-Baptiste est emprisonné dans la forteresse de Machaérus, qui n'était pas, comme je disais souvent, une station balnéaire, un lieu que les gens choisissaient pour aller passer des vacances l'hiver. 6-7 kilomètres à l'est de la mer Morte, c'était immensément aride. Le pauvre Jean-Baptiste y est là parce qu'il était fidèle à Jésus. Une chante récompense, hein? Pour être le précurseur du Seigneur. C'est lui qui reconnaît l'agneau de Dieu. C'est lui qui sursaute dans le ventre de sa mère lorsque Marie, enceinte de Jésus, salue Élisabeth. C'est lui qui dit, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Là, il est en prison puis il se dit, est-ce que j'ai vraiment baptisé le bon Messie? Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il envoie des gens vers Jésus. Est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On sait comment ça va finir, il va perdre la tête. Il va littéralement être décapité. Quand il envoie des gens vers Jésus, écoutez, mettons-nous à la place de Jean-Baptiste. Il est en prison, c'est un gars d'action, il n'y a pas beaucoup d'action en prison, surtout pas dans le coin où il était. Il n'y a pas bien bien de la visite, même pas Jésus. Jésus va même pas le voir. Des questions à se poser pour le bonhomme qui est tout seul là. Alors, il envoie des gens vers Jésus. Et Jésus aurait pu se dire, écoute, c'est vrai là, franchement. On dit ça souvent, nous, comme pasteurs, hein, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû le visiter, j'aurais dû... Jésus aurait pu se dire, bien là, c'est vrai, j'aurais pu aller faire un petit tour au moins pour l'encourager un peu, en disant, écoute, ça va bien aller. Jésus ne change absolument pas les circonstances parce qu'il s'attendait à quoi, Jean-Baptiste? Pasteur Jacques en parlait ce matin, un jugement. Que le Messie exerce son jugement, c'est beau, là, faire des miracles, susciter du monde, correct, là. Mais quand est-ce que Israël va être restauré? Parce qu'il y avait un peu les attentes pharisaïques de son époque, vous voyez. Est-ce que Jésus ne dit pas, bon, OK, je vais lui rendre service, je vais changer un peu ma stratégie, pas du tout, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit quelques malades, chasse quelques démons, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez tout dire ça à Jean. Il est en train de le pointer vers les signes du Messie. Oui. Pas de consolation des circonstances, consolation directement à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et mais quel privilège que de se savoir dirigé par un Dieu souverain qui nous a placés dans la parade, dans le défilé. Quelles que soient les déceptions, les déconvenues de mon ministère, aussi difficiles, décourageantes puissent être les circonstances, nous suivons notre Christ, notre général, dans la parade victorieuse, non comme des captifs, mais comme des co-vainqueurs. Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Si vous recevez un email de moi, un courriel, un mail, comme on dit en France, et que c'est signé Super Vincimus, Raymond Perron, Super Vincimus, c'est le mot latin qui veut dire plus que vainqueur. Alors, on est situé là-dessus. J'imagine que c'est ce qui animait. C'est Pascal qui parlait hier du père de Don Carson, hein? J'ai lu, quelqu'un l'a peut-être lu, le journal de Don Carson, du père de Don Carson, c'est extrêmement intéressant. Il fait des entrées, là, comment ça a été. Je l'ai lu, il est en français, moi je l'ai lu quand il est sorti en anglais, là. Alors, il raconte qu'il a prêché à Drummondville, parce qu'il était là, entre autres, puis il a prêché également dans la région de la Gatineau, hein. Et là, il m'a « I preached tonight, I did very poorly ». Et c'est, à chaque fois, il écrit ça, « I did very poorly ». Je n'ai pas bien réussi. Il était toujours insatisfait de sa prédication, mais il poursuivait. Parce qu'il avait compris qu'on est ce qu'on est. Par la grâce de Dieu. Notre frère Georges Corriveau nous a envoyé un article récemment qui parlait justement du décrochage pastoral. Hein? Je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai gardé d'ailleurs le paragraphe où le gars dit « Mon ministère a changé complètement un jour où j'ai décidé que j'allais être moi-même. Avec toutes mes carences, avec tous mes défauts, avec mes péchés, avec mes besoins de sanctification et d'avancement. Parce que je ne peux pas être rendu où je ne suis pas rendu. Je vais donc décider d'être moi-même. Et mon ministère a changé radicalement depuis ce jour-là. Le Seigneur, là, il n'a pas envoyé des anges pour prêcher. Il a envoyé des misérables pécheurs comme nous autres. Hein? Et ce qu'il veut, là, c'est pas qu'on joue un rôle devant le peuple, devant les brebis. Il veut qu'on les aime, même avec notre manque d'amour, parce qu'on manque d'entrailles, de compte, de miséricorde. Il veut qu'on soit juste nous-mêmes. Et les peuples, le peuple de Dieu n'est pas fou. Le peuple de Dieu le sait. Si on lui ment, si on lui joue un rôle. Le peuple de Dieu sait. Lorsque même à travers vos manquements nombreux, on saigne pour lui. Le peuple sait ça. Donc, mon premier point, l'apôtre qui rend grâce à Dieu pour le privilège d'être dirigé par un Dieu souverain. Mon deuxième point, l'action de grâce pour le privilège d'être le canal de la connaissance du Christ. Alléluia. Verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Dans ce grand défilé du vainqueur, dont nous venons de parler là. Il y avait des esclaves chaque côté, hein, avec des encensoirs qui dégageaient de l'encens, donc. Il y avait aussi des femmes de chaque côté du défilé qui lançaient des fleurs. On lançait des fleurs un peu partout, vous voyez. Et il y avait aussi, autour du cou des vainqueurs, il y avait des colliers de fleurs. Excusez-moi, on va nettoyer un peu la cheminée. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir le micro collé après l'oreille. Hein? Alors, ce mélange-là d'encens, de fleurs et de colliers de fleurs au cou des vainqueurs, ça créait une fragrance, un doux arôme qu'on a surnommé l'odeur de la victoire. Mesdames, si vous recherchez un bon parfum que vous trouvez dans une parfumerie, l'odeur de la victoire, ça vient de Rome. C'était tout ce mélange d'arômes, n'est-ce pas? Effectivement, c'était l'odeur de la victoire. Vous voyez? C'était lié, quand on sentait ça, là, oui, l'encens, les fleurs, on est victorieux, disaient les Romains. Et l'apôtre ici rend grâce à Dieu pour le privilège d'être une influence au bénéfice du Christ. Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa grande bonté, dans son chesed, voulant nous rendre participants de sa gloire, a choisi de manifester le merveilleux parfum de la connaissance de Jésus-Christ partout, à travers nous et par nous. Je et vous êtes une gang de flacons de parfum. Nous sommes des flacons de parfum pour le Christ. C'est par nous qui répand l'odeur de la connaissance du Christ. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous élève d'exaltant? On n'est pas juste des croyants bêtes, là. On est des porteurs de parfums célestes, de la connaissance du Christ Jésus. Nous élevons bien haut la bannière de la vérité. Charles Bridges, dans son excellent bouquin de Christian Ministry, écrit ce qui suit. Je pense que je vais citer cela à l'ordination de mon frère André Pinard. La tête ultime de l'Église a ordonné 3 grands repositoires de sa vérité. Alors, la vérité de Dieu, et Dieu l'a mis dans 3 repositoires différents. La tête ultime de l'Église a ordonné 3 grands repositoires de sa vérité. Dans l'Écriture, il l'a préservée par sa providence contre toute attaque hostile. Ben oui, on l'a sur un support écrit objectif. Dans les cœurs des chrétiens, il l'a maintenue par l'énergie toute puissante de son Esprit Saint, malgré les signes extérieurs d'apostasie générale. Et dans le ministère chrétien, il a déposé ce trésor dans des vases de terre pour l'édification et l'enrichissement de l'Église dans les âges successifs. Quel ministère nous avons, frères et sœurs, ou frères, surtout parce que c'est pas sur pasteur. Comment ça peut être hérétique? D'autres l'interdent avant moi, hein? Les frères musulmans, puis les pérogones. Donc, la Bible dans le cœur des croyants, la Bible, le cœur des croyants et le ministère de la parole. Nous sommes des repositoires de la vérité divine. Romains 10, 13, 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, ce n'est pas notre face qui est belle, ce sont nos pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est là où on se rend, c'est là où on va, c'est là où nos pas nous conduisent. Frère, Dieu nous a choisis pour le ministère pastoral. Quel privilège exaltant! Je partage avec Jay, avec Pasteur Charles, il n'y a pas longtemps. Et il a ri, alors je pense que ça voulait dire amen. J'ai dit, quand j'étais à Toronto, que j'étais hors du ministère pastoral, je pleurais pour y revenir. Maintenant que je suis dedans, des fois, je pleure pour en sortir. Oui, c'est la dureté de cœur, ça. C'est s'habituer à la bénédiction divine. Hein? Lorsque on reçoit l'appel pastoral, l'appel subjectif au pastorat, et que l'appel est confirmé objectivement par l'Église, écoutez, on ne marche plus, hein, on lévite, on est tellement heureux, tellement content, tellement reconnaissant au Seigneur. Et là, c'est extraordinaire, vous voyez. Et les années passent, les déconvenues, les déceptions, bon, etc., et à un moment donné, on n'arrive plus à voir ça comme le même privilège. Sauf parfois parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, fait en sorte qu'on revient pas à notre bon sens. Hein? Et là, on demande pardon et on dit, « Oh Seigneur Dieu, quelle grâce tu me fais. Malgré cela, tu me gardes dans ton œuvre. » Quel incroyable privilège. Est-ce qu'on mérite cet appel-là? Est-ce que Dieu nous a regardés? Oh! Il y a de l'allure, espérons-là, tiens. Moi, il me ferait un bon pasteur. Oh, Pelletier, oh, sure! Non, et non! Hein, non. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a été séduit par notre charme pastoral? Qu'est-ce qu'on a fait? Avons-nous fait quelque chose pour gagner ce privilège-là, cet honneur-là? D'aucune façon. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Non seulement notre Dieu nous place-t-il dans la parade, dans le défilé victorieux, mais il fait encore que par nous, l'odeur de sa connaissance se répande partout, sur toutes les vies touchées par notre ministère. Mon troisième point. Paul rend grâce à Dieu pour le fait que Dieu prend plaisir en nous. Alors Paul va encore plus loin dans l'expression de sa louange. Il rend grâce à Dieu de faire partie du défilé des vainqueurs, à titre de soldat et non de vaincu, bien sûr. Il rend encore grâce à Dieu de ce qu'il a un parfum de connaissance tout autour de lui. Il dégage une odeur agréable, mais pour qui? Regardez le texte. Pour Dieu. Pour Dieu. C'est toute une affirmation, ça. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu. Le parfum de Christ. Et c'est bien ce que le grec veut dire. C'est d'abord pour Dieu que nous dégageons une agréable odeur. C'est un parfum qui va vers le haut, tout droit, vers le trône de Dieu. C'est dire que partout où nous prêchons la vérité, nous plaisons à Dieu. C'est un parfum d'agréable odeur à Dieu. Yeah. Alléluia. Lorsqu'en dépit de toutes nos infirmités, « though I did poorly tonight », pour reprendre les expressions du pasteur Carson, lorsqu'en dépit de toutes nos infirmités, nous prêchons passionnément la parole de Dieu, nous pouvons être assurés du sourire de Dieu sur nous. Danny me disait tout à l'heure, oui, on est fatigué, mais quelle satisfaction de savoir qu'on a fait ce qui nous était demandé. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que ça, que de sentir le sourire de Dieu sur nous. Amen. 2 Corinthiens 5, 9 nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Voyez-vous, la question, ce n'est pas le nombre de personnes que je rassemble, qui viennent m'écouter. Ce n'est pas la grosseur de notre Église qui importe. Ce n'est pas notre popularité ou notre renommée ou nos résultats. Dieu se plaît dans les ministres dont la prédication monte comme une fragrance vers son trône. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Phase 2. Et lorsqu'on a compris cela, vous savez, le jugement des hommes perd beaucoup de poids. J'en parlais avec Pascal hier justement. Pascal dit, je me sens tellement bien dans ma peau. Il faut dire aussi qu'il est dans son meilleur. On est dans notre meilleur à peu près entre 35 et 55, à peu de choses près. Mais je ne sais pas d'être un autre, je ne sais pas de prouver quoi que ce soit. Je suis juste moi. Et avec mon amour pour le Seigneur, mon amour pour la parole. Lorsqu'on a compris cela, le jugement des hommes perd beaucoup de poids. Et on peut certainement faire nôtre les propos de l'apôtre dans 1 Corinthiens 4, 3 à 6. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Versets 15 et 16. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et là, il faut garder toujours à l'esprit que nous sommes dans l'image du cortège, du défilé triomphal à Rome, avec le général en tête, suivi de ses soldats vainqueurs et suivi ensuite par ceux qui ferment la marche, les conquis et les prisonniers. Alors, dans cette parade-là, les parfums qui étaient dispersés par les porteurs d'encens, par les lanceuses de fleurs, faisaient une odeur, bien sûr, dégageaient une odeur qui se promenait un petit peu partout dans le lieu, et ça accompagnait la procession. Cette odeur était certainement fort agréable pour ceux qui célébraient la victoire. Mais pour les pauvres boucs derrière, les conquis, condamnés à mort, c'était une odeur de mort. Pour les uns, une odeur de vie. Pour les autres, une odeur de mort. Il est ainsi pour la parole de la prédication. La parole de Dieu n'est jamais, jamais prêchée en vain. On peut sortir parfois et dire, ah, ce soir, je n'aurais pas prêché puis ça n'aurait rien changé. C'est faux. La parole de Dieu n'est jamais prêchée en vain. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu accomplit toujours, toujours l'effet désiré par Dieu. Sans aucune espèce d'exception. Odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, odeur de mort pour les perdus. Quand la parole de Dieu est prêchée, dépendamment de la réponse donnée, cette parole-là amène les élus au salut, elle confirme la perdition des réprouvés. Et on retrouve ça même dans le Nouveau Testament chez Luc et chez Marc. La parole de Dieu, elle est alliantielle. C'est-à-dire que tous ceux avec qui Dieu a fait alliance viendront et confirment la perdition du reste. Et ça m'amène à mon quatrième point. Quatrième action de grâce de la part de Paul, action de grâce pour la force que Dieu donne. Verset 16, la grande question. Qui est suffisant pour ces choses? Le mot suffisant, hikanos, veut dire littéralement qui est compétent pour ces choses-là? Qui possède une habilité suffisante? Qui possède en lui-même ce qu'il faut pour être d'une agréable odeur à Dieu et pour être odeur de vie ou de mort? La réponse résonne clairement, hein? Elle détonne littéralement dans les versets. Chapitre 3, versets 5 à 6, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » C'est ce que nous sommes, des ministres de l'esprit. C'est cette réalité, c'est cette conviction profonde. Et il faut l'avoir impérativement si on veut faire long feu dans le ministère. Qui nous amène à ne pas adapter la parole de Dieu en vue d'un plus grand succès. Qui nous empêche de vouloir la triturer, cacher certaines choses. La parfumer, la tremper dans le chocolat pour la rendre plus agréable au palais. C'est cette profonde conviction qui nous empêche de tomber dans ce que j'appelle fréquemment le clientélisme, adapter le produit au client. Verset 17, « Car nous ne falsions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » J'aime la version anglaise qui dit, « For we are not like so many peddlers of God's word. » On n'est pas des peddlers de la parole. Vous savez, ces colporteurs qui viennent vous vendre leurs gadgets made in China, de porte en porte. Mais pas comme cela. On ne vend pas de la camelote. On prêche une parole de vérité, une parole qui donne la vie. Nous ne réduisons pas le vin de la parole avec l'eau de la philosophie ou de la psychologie. Mark Dever donne l'illustration suivante. Ça va te plaire, frère. Le travail d'un facteur nous fournit une belle illustration du rôle du prédicateur. Hein, Max? Considérez sa tâche pour un moment. Un facteur n'est pas embauché pour aller au magasin, acheter une boîte de cartes, les apporter sur votre galerie, s'asseoir dans les marches, écrire dans les cartes, les mettre dans l'enveloppe, lécher l'enveloppe pour la sceller, y apposer un timbre pour ensuite la déposer dans votre boîte aux lettres. Non. Il est spécialement embauché pour vous apporter le message que quelqu'un d'autre a écrit et vous envoie. Il n'est pas censé inventer le message. Il ne fait que le livrer. Et c'est ce que nous sommes comme chrétiens. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous n'avons pas à être inventifs ou originaux. Ça, c'est la grosse maladie contemporaine. On cherche des nouveaux modèles d'Église. On cherche de nouvelles manières de faire. On a le modèle dans la parole de Dieu, on a le principe régulateur. Nous n'avons pas à arriver avec quelque chose qui va satisfaire le goût du jour. Non, nous avons une tâche beaucoup plus simple, comparable à un facteur, à savoir livrer le message qui nous a été confié. Et c'est compliqué. Tu trouves ça compliqué? On a le message, on le livre. Oui, mais ils l'ont déjà entendu, on le livre encore. Je ne me lance pas de vous répéter les mêmes choses, cela vous est salutaire de dire la parole. Vous savez, ça fait 40 ans que je suis au ministère, par la grâce de Dieu. Commence à 3 ans. Comme dirait le capitaine Bonhomme, les sceptiques seront confondus. Du. Plus nous avançons dans le ministère, plus on réalise notre insuffisance. Combien de fois, James, on en parle, hein? Comment notre théologie nous garde à flot, nous garde la tête hors de l'eau, au-dessus de la mêlée. Notre compréhension de la souveraineté divine. Et je vais vous faire une confession que j'ai faite à James déjà, il m'a pardonné. Parfois, je tends à devenir hyper-calviniste. Mais on est tellement conscient de notre impotence, hein? De notre insuffisance, de notre incapacité. On est tellement démunis devant la misère humaine. On voudrait tellement être utile. On sent tellement qu'on ne sert à rien. Alors, on réalise de plus en plus notre insuffisance. Puis, un autre dégât aussi qui se fait, c'est qu'à un moment donné, grandir dans la sanctification, c'est grandir dans la conscience du fait qu'on est pécheur. On est bien plus conscient du fait que je suis pécheur aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On est conscient de nos manquements, de nos ratés, de notre péché, etc. De sorte que lorsque viendra le temps de passer de vie à éternité, et vous savez que j'ai pas honte, j'ai eu honte quand j'étais en Louisiane. J'ai eu honte de moi-même. Je suis pas tout seul. J'ai vraiment, écoutez, je suis très heureux sur terre, donc mon épouse et tout, mais je sais que ça risque d'être un peu mieux que le Seigneur. on sait que le ciel, ça risque d'être le ciel, ça risque d'être céleste. Hein? Alors, j'ai bien hâte d'être avec le Seigneur. Et des fois, bon, ben, je me tarde, je me dis peut-être que ça vient bien, tout moitié une maladie quelque part. Je parlais avec l'assistant pasteur à Clinton et il me dit, je ne sais pas ce que Pascal lui aurait répondu, il me dit, Mitch me dit, oh, j'espère que le Seigneur va me garder en santé parce que je veux le servir sur terre le plus longtemps possible. C'est quoi son problème? Non, mais c'est correct, là. Je trouve ça beau. Il aime les brebis. Après ça, il dit, ben là, peut-être que j'ai remis en question mon salut. Non, mais j'ai trouvé ça beau. Ça m'a donné quand même une belle leçon. Mais il faut dire que Mitch fait partie des. C'est une classe à part. Hein? Une classe en maison. Enfin. Donc, lorsqu'il viendra le temps de passer de vie à éternité, et que nous nous présenterons devant notre roi, nous jetterons toutes nos couronnes devant lui, aucune pour nous. On n'en méritera aucune, même pas l'ombre d'une couronne. Toutes les couronnes devant le Seigneur. Lui seul mérite toute la gloire, pleine et entière, pour ce qu'il condescend à faire par notre biais. Bien-aimés, nous terminons notre assemblée générale ce soir. Ce soir, c'est la montagne. On aimerait faire des tentes, comme au mont de la Transfiguration, et rester ensemble et nous encourager mutuellement, le plaisir qu'on a eu, la bénédiction qu'on a expérimentée au cours de ces deux jours. Demain, on tourne dans la vallée. Je ne veux pas être négatif, mais ça risque d'être moins drôle un peu demain matin. Nous sommes de retour sur nos champs respectifs. Je ne sais pas si ça vous êtes comme ça, collègue pasteur. Moi, quand je vais à l'extérieur, je dors donc bien. Puis plus l'avion approche, plus j'approche de l'aéroport Jean-Lesage, je sens que ça revient. Déjà, on dirait que tous les dossiers reviennent, même si je ne les vois pas encore. Êtes-vous comme ça? Quand on s'approche, ça revient. Hein? Quand on va en vacances puis qu'on revient, on prend notre travail, nous revient là, un tout petit peu plus. Alors demain, donc, le retour sur nos champs respectifs avec la pression, les problèmes, les bénédictions aussi. Mais il y aura les défis aussi et il y aura les responsabilités. Comment est-ce qu'on va composer avec cela? Est-ce que ça va être en se disant « Je suis une pauvre créature insignifiante, incompétente, insuffisante pour l'œuvre. » Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais est-ce que c'est le refrain que je vais me chanter? Est-ce que c'est la toune que je vais me répéter? Ou sera-ce en me rappelant que je suis de la parade triomphale? Alléluia. Que je suis un encensoir, un contenant du parfum de la connaissance du Christ. Puisse le Seigneur garder nos têtes bien hautes, nos têtes tournées vers lui, rayonnant de joie, et non pas tourner vers nous ou vers nos circonstances le visage en Stradivarius. Et à cet effet, vous savez, rien n'y fera, sinon que de prioriser notre relation avec le Christ. On peut devenir tellement absorbé par nos dossiers, par les problèmes, que quand on arrête, « Ah, je suis trop fatigué pour lire, je prierai tantôt », ça peut être comme cela, vous savez. Rien n'y fera sinon que de prioriser ma relation avec le Christ. On peut avoir le mur de nos bureaux tapissé de nos beaux diplômes. On peut apprécier ça et là les compliments et les encouragements des frères et des sœurs. Mais si nous voulons garder le cap, si nous voulons nous prémunir contre le découragement, voire le cynisme même, il nous faut impérativement une grande proximité avec notre Seigneur. Et comme les seules choses intelligentes que je parviens à dire, c'est lorsque je fais parler les autres, permettez-moi de terminer en vous citant Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, qui dit ceci. Mes frères pasteurs, écoutez bien ceci. Lorsque nous parlons comme des ministres et non comme des hommes, lorsque nous parlons comme des prédicateurs plutôt que comme des pénitents, lorsque nous parlons comme des théologiens plutôt que comme des disciples, nous échouons. Lorsque nous reposons trop notre tête sur les commentaires et trop peu sur le sein du Seigneur. Lorsque nous nous nourrissons trop abondamment à l'arbre de la connaissance et pas suffisamment à l'arbre de la vie, nous perdons la puissance de notre ministère. Puisse le Seigneur nous garder. Nous conduire dans la gloire, à sa plus grande gloire, en Christ Jésus. Amen. Amen.